On a chanté Passer de l'ombre à la lumière. J'ai pensé à ce thème depuis quelques temps, et puis je ne sais plus quand c'est jeudi soir ou vendredi. Je voulais aller marcher, mais je n'avais pas le temps toute la journée, j'avais pas le temps. Puis à la fin de la journée, je me dis, mais avec la saison qui arrive, si je n'apprends pas à marcher plus la nuit, je ne marcherai plus. Et donc je suis parti avec ma frontale, et j'ai marché 3 heures dans la nuit, dans la forêt. Il pleuvait un peu, et c'était étrange quand même, je dois dire, quoi, hein. Quand on est un peu loin, alors c'est pas loin, je connais ces chemins, je les ai déjà pris, mais tout seul. Et puis, il y a juste, c'est comme si le monde existe juste dans le halo de la frontale, quoi, hein. Alors, quand il n'y avait pas d'arbres, il y avait quand même un petit peu de lune, même s'il pleuvait, c'est un peu bizarre. J'y voyais presque assez, comme ça, c'était différent. Mais dès que j'étais sous les arbres, et puis c'était noir, vraiment noir, pour pas casser une cheville, quand même. Je mettais la frontale, et puis on disait, d'habitude, je marche là, et puis, je connais assez bien ces endroits. Mais là, le monde est tout petit, il y a juste ce petit halo de lumière devant moi, et c'était particulier, j'ai aimé. Et je méditais sur ce thème-là de la lumière. Alors c'est un thème dans les Écritures, la lumière, si vous faites une recherche sur le mot lumière dans la Bible, vous allez avoir du matériel, hein. Depuis le commencement, Dieu dit la lumière, et puis etc., etc. Mais j'y pensais dans un contexte qui est plus précis, et qui est lié avec notre vie à l'intérieur de nous, donc là où on rend un culte à Dieu. Je prends chaque occasion pour rappeler un peu le vocabulaire. On ne vient pas au culte le dimanche matin, on rend un culte à Dieu en notre esprit chaque fois qu'on est connecté avec lui. Et c'est l'essentiel, c'est la réalité de nos vies avec Dieu, puis après, ce qu'on fait devrait découler de ça. Alors je vais quand même commencer avec un texte très connu, on va en voir quelques-uns, dans l'évangile de Jean qui parle de l'incarnation, Christ qui vient sur terre. Au commencement, Jean 1:1, au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et dans ce texte, on a le premier élément qui est dit, à tous ceux qui l'ont accepté. C'est le point de départ, accepter la lumière. Alors, on ne peut pas faire disparaître la lumière, mais on peut ouvrir les yeux ou fermer les yeux. On peut la refuser. Et lorsque Christ est venu sur terre, il est venu manifester cette lumière éternelle qui est la vie des hommes. Jean a préparé le chemin, etc. Et il n'a pas été accueilli. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, au-delà de cette première fois peut-être où un jour on a réalisé que Christ est réel et puis on a décidé de lui confier nos vies. Mais c'est une première question que je veux vous laisser. J'aimerais vous laisser des questions pour réfléchir par vous-même. Comment j'accueille la lumière dans ma vie? Juste cette question-là, on pourrait rester très longtemps dessus, à réfléchir, à reprendre. Comment j'accueille la lumière dans ma vie? Je ne sais pas pour moi, mais moi je sais qu'il y a des moments où je n'ai pas envie de l'accueillir. Alors le dimanche matin, je suis là, je me prépare parce que je sais que je vais me tenir devant vous, je dois avoir quelque chose à dire. Il y a une responsabilité. Alors, il y a des choses que j'accepterai pas à ce moment-là dans mon esprit. Là, c'est sérieux, je me prépare. Mais le dimanche soir, quand j'ai fini ma semaine, puisque les pasteurs travaillent que le dimanche matin, donc le dimanche soir, j'ai fini ma semaine, et jusqu'au dimanche d'après, j'ai rien à faire. Là, je peux accepter d'autres pensées, parce que j'aurai le temps de me repentir d'ici dimanche. Alors, je plaisante un petit peu, mais c'est quand même cette idée-là. Des fois, j'accepte la lumière et des fois, je l'accepte moins. Je ne veux pas dire je cherche les ténèbres, mais juste, un peu des vacances par rapport à la lumière. Parce que vivre dans la lumière, c'est exigeant. Ça demande beaucoup. Et je continue un petit peu le fil. Dans Jean 12, 36, il est dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Donc, ce n'est pas simplement le fait qu'un jour nous avons vu la lumière. Je ris parce qu'il y a une vidéo qui circule, je vous la conseille. C'est une plaisanterie sur le Covid. Et c'est un gars qui parle, il est devenu covidiste, comme si c'était une religion. Et puis, j'ai vu la lumière, je marchais dans la rue, j'ai pris une amende de 135 €. Et tout d'un coup, j'ai été touché par la grâce. Et il a vu la lumière, voilà. Donc ça, c'est une blague là-dessus, mais... Je ne sais pas s'il faudra enlever ça de l'enregistrement, je suis mal parti. C'est assez rigolo, c'est très très rigolo. Trouvez ça sur, n'importe où sur Internet. Mais pour nous, un jour, voilà, d'une façon ou d'une autre, nous avons vu la lumière, non. Nous avons accepté Christ, et puis voilà, on est devenu enfant de Dieu, c'est bien. Hein, mais parmi les synonymes, enfant de Dieu ou enfant de la lumière, c'est la même chose, puisque Dieu est lumière. Il n'est pas que lumière, il est aussi amour, justice, vérité, mais il est lumière. Et nous sommes enfants de la lumière. Et il dit, puisque pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres contextes, mais pour nous, au XXe siècle, nous les croyants qui sommes arrivés après l'époque où l'athéisme, on a cru que l'athéisme allait faire du tort au christianisme, ça y en fait aucun. Ce qui fait du tort au christianisme, c'est la contrefaçon du christianisme. Ce n'est pas les autres religions ou non-religions, quelles qu'elles soient. Mais on a assimilé le mot « croire », quand on le lit dans la Bible, à « savoir et être convaincu qu'une chose existe ». Mais ça, c'est un tout petit bout du sens du mot « croire ». À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de athée. Les gens qui ont crucifié Jésus étaient tous des croyants. Pas un seul juif ne croyait pas que Dieu existait. Et tous croyaient qu'il avait inspiré l'Ancien Testament et qu'il avait donné les 10 commandements à Moïse. Donc, croire que Dieu existe, c'est un prérequis moderne. Effectivement, si je suis un vrai athée, donc je crois qu'on est issu du hasard, etc. Le hasard est la nécessité, qu'il n'y a rien derrière, qu'il n'y a pas d'intelligence. Il me faut d'abord faire le chemin pour arriver à A. Il y a une intelligence derrière ce monde, et puis cette intelligence, elle peut s'appeler Dieu, et ce Dieu peut être le Dieu de la Bible. Et pour nous, on a l'impression que quand quelqu'un qui ne croit pas a fait ce travail-là, tout est fait. Mais ça, c'est tout récent. Donc, encore une fois, à l'époque où les textes de la Bible ont été écrits, il n'y avait pas d'incroyants dans ce sens-là. Donc, lorsqu'il dit « croyez en la lumière », le mot « croire », essentiellement, il veut dire « placer pleinement sa confiance en. » C'est pour ça que croire ou avoir la foi sont interchangeables la plupart du temps, et dans le grec c'est la même racine du mot. Donc croire en la lumière, c'est pas juste savoir qu'elle existe. De la même façon que croire en Christ, c'est pas juste savoir qu'il existe, il est mort, il est ressuscité, super. Non, c'est vivre en lui faisant confiance. Donc en étant conscient qu'il est réel, bien sûr c'est le point de départ, Et vous voyez comme ça prend tout de suite un sens différent, beaucoup plus large, beaucoup plus riche, et où on sort d'une superficialité où je fais quelques trucs et je suis un chrétien, je vais à l'église, je donne un peu d'argent. Non, c'est vivre dans cette confiance. Et parce que nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Elle fait partie de notre ADN spirituel. Je continue toujours un petit peu. Éphésiens 5, 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc là, il y a une étape de plus. Christ est la lumière, il vient, on l'accepte, on consent à être éclairé, on est en communion avec lui, on devient enfant de Dieu et enfant de la lumière. Et là, il nous est dit, marchez dans la lumière. Alors, marcher dans le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, ça ne veut pas juste dire se déplacer d'un point A à un point B en utilisant ses pieds. Marcher, ça nous parle, c'est simple, de notre façon de vivre, mais d'une façon de vivre où on décide de ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça vous arrive pour les gens qui aiment marcher, de partir sans savoir où vous allez. Oh, je vais marcher aujourd'hui. Puis vous partez, puis à chaque intersection, vous décidez d'aller là ou ailleurs, et puis vous arrivez quelque part ou pas. Enfin, forcément quelque part, mais vous ne saviez pas forcément avant de partir. On peut marcher comme ça, et c'est même agréable. Mais souvent, on part pour faire une marche bien précise. Hein. On veut arriver à ce sommet, on veut arriver à ce lac, on veut faire ce tour, on veut faire cette boucle, voilà, on sait où on va, et puis, ben voilà, il y a des intersections, mais non, on prend celle-là parce qu'on va là. Hein. Marcher, dans la Bible, c'est avoir une intention d'aller quelque part. Savoir où je suis, savoir où je vais aller, et puis se donner les moyens d'arriver à cet endroit. Hein. Même si, paradoxalement, le père des croyants, Abraham, il est dit, parti sans savoir où il allait. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas la destination, mais il savait où il allait. Il suivait le guide. Alors lui ne savait pas où il allait, mais il suivait un guide qui savait où il allait. Et ça, c'est peut-être plus notre situation à nous. Suivre Christ, ce n'est pas dire, voilà, ma vie est tracée, je suis chrétien, je vais vivre comme ça. C'est chaque jour chercher le guide pour savoir où marcher et il va nous amener là où il va nous amener, on ne le sait pas, comme ça a été rappelé ce matin par Pascal. Hein. Voilà. Surtout que ben, je pense beaucoup ici qu'Oudès Christian, c'est la dernière personne qu'on imagine faire un malaise vagal. Didier, pardon, c'est son frère. Hein. C'est comme, voilà, c'est une force de la nature, sportif, toujours très. Et puis paf, voilà, hein, on ne sait pas. Donc, nous sommes enfants de lumière et nous devons apprendre à marcher dans la lumière. Et là aussi, ben, on peut réduire ça à alors, ben, marcher dans la lumière, c'est ne pas dire de mensonges. Évidemment que c'est bien de ne pas dire de mensonges, et c'est une façon de marcher dans la lumière. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça aussi. Et là, dans ce texte-là, je continue de le lire, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il y a deux autres notions ici qui sont intéressantes. La première, c'est que marcher dans la lumière porte du fruit. Hein? Vivre avec Dieu porte du fruit. Et c'est très important, on en a parlé aussi jeudi soir à Bévillard. Les lieux, et un petit peu mercredi aussi à Vienne, à Douane, je suis resté avec les anciens lieux. Dans quel ordre on met les choses? J'ai dit au début que ce qui fait le plus de tort au christianisme, ce n'est pas l'athéisme, l'islam, le bouddhisme ou ce que vous voulez, c'est les contrefaçons du christianisme. Et les contrefaçons du christianisme, c'est souvent de prendre des choses vraies, mais de les mettre à l'envers. L'ordre qu'on est en train de voir, c'est Christ est la lumière du monde. Un jour, je l'accepte, je consens à l'accueillir dans ma vie, je deviens un enfant de lumière, je cultive cette relation avec la lumière, j'apprends à marcher dans la lumière, parce que je marche dans la lumière, je porte le fruit de la lumière, qui est justice, bonté, etc. etc. Hein, et mes actes, qui sont la conséquence du fait que je marche dans la lumière, rendent un témoignage maintenant au bout du processus, fait presque au bout, qui est visible par tous. Et puis, ben, dans cette époque-là, et là, Paul, quand il écrit, là, c'est aux Éphésiens, donc ce n'est pas dans un contexte juif, hein, donc c'est ce qu'on appelait les païens, donc des gens qui avaient, parce que les juifs avaient une morale ben, de laquelle est issue la morale chrétienne. Mais là, ces gens-là étaient dans ce qu'on appelait l'immoralité, hein, avec les temples où on allait, il y avait des prostituées sacrées, les orgies, ces machins-là, etc. Et puis, ce qui était chrétien, quand il devenait croyant, quand il devenait enfant de la lumière, tout d'un coup, dans ces villes-là, on les voyait comme la lumière dans la nuit. Les hommes arrêtaient d'aller au temple, c'est-à-dire voir les prostituées. Ils arrêtaient d'être sous du matin au soir, ils arrêtaient peut-être la polygamie. Leur vie changeait. Et puis surtout, on va le voir après, mais je le dis déjà ici, ces gens-là s'aimaient les uns les autres dans quelque chose qui n'était pas connu, Ils soutenaient, ils s'encourageaient, il y en a un qui était dans le besoin, chacun qui avait un petit peu plus donnait un petit peu d'argent pour l'aider. Puis on dit, alors non seulement, c'est vrai, ils font plus ces choses-là, mais à la place, ils ont une autre façon de vivre qui est incroyable. Ils s'aiment, et puis ils se soutiennent, ils s'aident, ils s'entraident. Et donc, on a appelé ces gens-là les chrétiens, au début pour se moquer d'eux, les chrétiens, disciples de ce Christ-là. Et ils étaient connus pour cette façon de vivre. Et avec le temps, il y a un glissement qui se fait, et puis on dit, cette façon de vivre, c'est être chrétien. Oui ou pas. Parce que, et c'est une bonne chose dans un sens que la morale, l'éthique chrétienne ait gagné le monde et soit devenue le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanisme. Puisque les valeurs de l'humanisme, c'est les valeurs qui sont issues d'être un enfant de la lumière, mais pas forcément avec Dieu. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a vu comment se comportent les enfants de lumière, on peut se comporter pareil, sans chercher la communion avec Christ et la lumière au départ. Et c'est ça qui est le plus grand piège, c'est qu'au cours des siècles, au cours de nos vies, ça se répète toujours, c'est pas qu'à une époque c'était mieux ou moins bien, mais en tout cas c'est aussi le piège pour nous aujourd'hui, on peut se contenter du résultat. Donc les chrétiens sont honnêtes, je suis honnête, et dans un pays comme la Suisse, moins en France, mais ou certaines parties aux États-Unis, vu qu'il y a une histoire entre guillemets chrétienne qui a amené une morale et une éthique chrétienne, même si elle disparaît, c'est très facile de se contenter de l'apparence du résultat. Sauf que quand on essaie d'avoir ce résultat-là, mais qu'il n'est pas le fruit de la lumière, mais qu'il est le fruit de la discipline, du travail, de la loi et de la pression et du regard des autres, c'est dramatique. Parce que justement, là, le témoignage qui est donné, c'est ces gens qui se disent marcher dans la lumière, en fait, ils font tout en cachette. Et puis, en fait, ce n'est pas le vrai témoignage. Et c'est pour ça que je dis, la contrefaçon du christianisme fait beaucoup plus de mal. Parce que l'islam, c'est l'islam, le bouddhisme, c'est le bouddhisme, l'athéisme, c'est l'athéisme. Chacun peut croire ce qu'il veut, penser ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. C'est identifié. Et si quelqu'un a envie de dire, comme le disait Jean-Paul Sartre, la question n'est pas de savoir si Dieu existe, mais c'est que s'il existe, on ne veut pas de lui, c'est sa liberté. Dieu a donné aux humains cette liberté-là. Et il l'utilise, chacun pour soi, chacun comme il veut. Et puis, c'est pour ça que C.S. Lewis dit, à la fin de tout, il n'y aura que deux catégories d'hommes, d'humains, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, vous voulez vivre sans moi, vivez sans moi. Ils respectent ce choix-là. Mais la contrefaçon du christianisme, c'est pire que tout, parce que si on pense connaître quelque chose et puis que ce n'est pas satisfaisant, ça s'arrête là, on va chercher autre chose. Mais en fait, on est passé à côté de ce qui était réellement. Alors, le travail de la lumière, c'est justement de nous ramener dans le bon déroulement des choses. Et je reprends encore une fois, Christ est la lumière, il vient, et puis on consent à la lumière, on l'accepte, on devient enfant de lumière, et on marche dans la lumière jour après jour. Et en marchant dans la lumière, je vais porter le fruit de la lumière, qui veut dire que mon comportement, je ne vais pas devenir parfait, mais va changer et va manifester les œuvres de la lumière. Et c'est de ça qu'on a besoin. Alors maintenant, j'aimerais amener un petit peu le projecteur, puisqu'on parle de la lumière, sur comment, concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire marcher dans la lumière. Et puis, je serais intéressé, après, pour commencer à y penser, sans arrêter de m'écouter, deux choses à la fois, surtout pour les dames, les hommes, contentez-vous d'écouter. Comment vous le vivez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous marcher dans la lumière? Mais je prends un autre texte dans Matthieu 6, on se promène un peu, 22. Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. On est dans les métaphores, on est d'accord. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? De quoi nous parle ce texte qui peut paraître un peu étrange comme ça, L'œil est la lampe du corps. Non, l'œil, c'est pour voir, c'est pas une lampe. Mais voilà, c'est ce que Jésus dit. Et si ton œil est en bon état, tu seras dans la lumière, si je paraphrase, mais sinon, tu seras dans les ténèbres. Et combien seront grandes tes ténèbres? Parce que ça ne sera pas des ténèbres où tu sais être dans les ténèbres, tu seras dans les ténèbres en pensant être dans la lumière. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est-à-dire que si je pense quelque chose qui est faux, par exemple, je prends un exemple grossier, mais je l'ai entendu une fois, hein, quelqu'un qui ne connaissait pas bien le christianisme et puis qui parlait d'une dame qui avait quitté son mari pour partir avec le voisin. Mais comme elle était follement amoureuse de lui et que Dieu est amour, c'était forcément la volonté de Dieu qu'elle quitte son mari et ses enfants pour partir avec le voisin. Ça nous fait sourire parce que c'est gros, mais ça permet de comprendre. Pour cette dame-là, ou pas tout, je sais pas la dame, pour le monsieur qui disait « Ah, vous voyez, c'est ce que Dieu veut, puisqu'il y avait de l'amour et que Dieu est amour. Hein, » voilà. Il avait une idée de Dieu qui était fausse, même si là, elle est grossière. Mais à cause de ça, ce qu'il pensait être juste était faux. C'est pas la situation de quelqu'un qui sait que c'est pas bien de voler, j'ai envie de voler, je vole parce que j'ai envie de voler, je vole pas. Voilà. Bon, c'est simple. Hein. Mais quand je fais quelque chose en pensant que c'est correct, mais que ce n'est pas correct, encore une fois, on est dans la contrefaçon, parce que je ne sais pas que je suis dans les ténèbres. Et c'est pour ça que, alors, je sais que c'est compliqué, parce que c'est un livre compliqué, qu'on ne sait pas toujours comment le prendre, mais c'est pour ça qu'on a quand même quelque chose de relativement objectif, qui est les écrits qu'on appelle, la bibliothèque qu'on appelle la Bible. Alors, je n'aborderai pas aujourd'hui comment on la lit, comment on la comprend, etc. Mais c'est quelque chose qui est extérieur à moi-même. Et c'est pour ça qu'elle est importante. Ce n'est pas magique, hein. Ce n'est pas la parole de Dieu. Puis on sait pas ce... Non, mais c'est juste que les informations qui me communiquent, bah, c'est par écrit. Ça va être, en plus, il y a un travail de l'esprit derrière, mais qui viennent et qui m'apportent un éclairage sur comment ça fonctionne. Et si ces informations-là et puis le rapport que j'ai à la vérité, on va l'appeler ça comme ça, hein, la vérité étant la pensée de Dieu, étant une personne, Jésus-Christ, si c'est pas correct, hein, alors c'est jamais parfait chez personne, mais si c'est gravement endommagé, ben, ma lumière est ténèbre. Et donc du coup, je vais faire des choses en toute sincérité, sincérité n'est pas synonyme de vérité, mais ça sera exactement ce que dit là, hein. Combien seront grandes tes ténèbres, hein. Je ne sais pas s'ils étaient sincères quand ils l'ont fait, mais si on pense par exemple à ce qui s'est passé quand les conquistadors ont débarqué en Amérique du Sud et puis qu'ils ont étripé les Indiens pour les forcer à se convertir au christianisme, je doute que beaucoup d'entre eux étaient sincères. Mais on peut imaginer que là-dedans, il y avait des gens sincèrement qui pensaient servir Dieu, hein. De la même façon qu'il y a eu souvent des guerres et puis les gens pensaient que la cause était juste et que Dieu était avec eux, et c'était pas le cas bien sûr, hein, mais ils pensaient que donc c'est pour ça qu'on a une responsabilité pour marcher dans la lumière, hein. Je peux pas juste me contenter de ça brille un peu là-bas, ouais j'ai vu vaguement un peu de lumière là-bas, j'ai une responsabilité et personne ne peut faire ça parfaitement, hein. Mais c'est aussi pour ça qu'on est appelé à avoir une famille spirituelle, parce que quand même, quand on est beaucoup à réfléchir aux mêmes choses, on voit les choses différemment, mais il va s'en dégager un noyau central sur lequel on va être tous plus ou moins d'accord, hein, pour avoir un rapport qui soit le plus correct possible avec cette vérité. Sinon, je vais mettre mes efforts au mauvais endroit et puis je peux aller ailleurs. Donc ça, c'est un aspect qui est important, qu'il faudrait aussi développer. On ne va pas le faire ce matin. C'est plein de pistes ce matin pour vous promener. Mais je continue et puis on arrive dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 20. « Quiconque fait le mal est, du verbe haïr, pas être, la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il y a un rapport direct entre faire le mal ou choisir le mal et vivre dans la lumière ou pas. On voit par exemple l'exemple de David, qui est appelé souvent l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un gars extraordinaire qui avait fait des choses magnifiques avec Dieu, qui avait une grande foi, qui connaissait Dieu. Et à un moment, il fait le truc le plus pourri qu'on puisse imaginer. il fait tuer son meilleur ami pour piquer sa femme. Non, pardon, il viole la femme de son meilleur ami et après il le fait assassiner pour couvrir le fait qu'il a violé la femme de son meilleur ami. Donc, difficile de faire pire. Hein. Et il sait qu'il a mal agi. Mais comme il est le roi et qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, hein, bah, il décide qu'il a le droit de faire ça. Et puis en plus, il croit qu'il arrive à le faire en cachette, tout le monde le sait, mais voilà. Et il vit comme ça un certain temps. Ça dure quelques années quand même, hein, puisqu'il y a le temps qu'il y a un enfant qui naisse, né du viol, etc. Et puis que le gamin soit là, donc il se passe une paire d'années peut-être. Et pendant tout ce temps-là, David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui connaît Dieu, qui croit en Dieu, il n'a pas arrêté de croire en Dieu. Il sait que Dieu est là, sûrement qu'il continuait d'aller faire ses petits sacrifices, ses machins, ses bazars et tout. Mais il marchait dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que s'il acceptait dans ses pensées de se tenir face à face avec Dieu comme il avait l'habitude de le faire, hein, quand on lit les psaumes qu'il a écrits, on voit que c'est quelqu'un dans l'Ancien Testament qui avait l'esprit, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et qui avait une vie intérieure d'une richesse incroyable quand il était en difficulté, quand il connaissait ce dialogue intérieur avec Dieu. Mais dans cette période-là, les volets étaient fermés parce que c'était pas possible. Et il n'était pas idiot, il savait, hein. Et donc, il a vécu ces années-là dans les ténèbres, choisi, parce qu'il voulait couvrir le mal qu'il avait fait. Finalement, un prophète vient, le démasque, le gamin meurt, il se repent, il demande pardon, Dieu le pardonne. Et là, il écrit des psaumes fantastiques sur le pardon, sur la restauration, sur « je suis de nouveau dans la lumière ». Alors, nous, j'espère, ne sommes probablement pas dans la situation de David, hein. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous ici, on n'a pas violé la femme de notre meilleur ami, puis en plus on l'a fait assassiner par la suite pour couvrir ça. Mais c'est le même principe. Il y a des moments dans nos vies où il y a des choses que ben, je sais que ça ne devrait pas, mais en fait j'en ai envie, je le fais quand même, sachant pertinemment que. Et puis pendant cette période-là, je vis loin de la lumière. Peut-être que je viens quand même au culte, peut-être même j'arrive à lire mon livret le matin, parce qu'on peut le faire sans communion avec Dieu, hein. Je lis mon petit passage, je peux même faire une petite prière avant le repas. Mais vous savez, hein, comme ça, quoi. Avec cette idée stupide, mais on est tous comme ça, comme font les enfants, hein, ils font ça et puis ils pensent que vous avez disparu. On a tous joué à ça avec les enfants. Hein. Ah, t'es plus là, t'es là, t'es plus là. Et nous, on fait pareil. Et on marche dans les ténèbres comme ça, puis Dieu ne nous a pas vus. Alors, c'est ridicule. Mais ce qui est grave, c'est que nous, on pense que le plus grave, c'est notre péché. Et ce qui désole Dieu, bien sûr qu'il n'aime pas notre péché. Mais Christ est mort pour ça, si on le confesse. C'est le fait qu'on vive tout ce temps-là dans les ténèbres, c'est-à-dire pas connecté avec lui. Et je cherche où est le texte qui nous dit ça. C'est un verset qui explique bien ça. Voilà. Jean 1. Jean, c'est vraiment celui qui parle de la lumière dans le Nouveau Testament le plus magnifiquement. Le mot n'existe pas, mais tant pis. 1 Jean 1.5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, carrément. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Juste une petite précision d'abord sur le vocabulaire. Vous m'entendez souvent parler de connexion, être connecté avec Dieu, hein, parce que c'est une image moderne qui nous parle, on sait ce que c'est, Internet, les connexions, etc. Quand vous voyez, il n'y a pas le mot connexion dans la Bible, mais chaque fois que vous voyez être en communion avec, si vous avez envie, vous pouvez traduire par être connecté ou être en connexion. Le mot communion, koinonia en grec, parle de ça. C'est une connexion de cœur très forte. Et nous sommes appelés à être en communion avec Dieu. C'est la prière même de Jésus, hein. Comme lui est en communion avec son Père et avec l'Esprit, il prie pour que nous soyons en communion avec lui et aussi en communion les uns avec les autres. Hein. Donc connectés avec Dieu comme ils sont connectés entre eux dans la Trinité et nous avec lui et les uns aux autres. Et là, ce texte est incroyable parce qu'il dit, donc il n'y a pas de ténèbres en Dieu, ça on le sait, il est lumière, mais si je dis être connecté avec lui mais je marche dans les ténèbres, Je mens, et surtout, je me mens à moi-même, parce que les autres, ce n'est pas important. Je me mens à moi-même. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La phrase que je vais dire maintenant, elle peut paraître étrange, mais comprenez dans tout le contexte que j'ai dit. Hein. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tellement proche de lui que même quand on pêche dans sa présence. C'est étrange ce que je dis. Hein. Mais c'est ça que nous dit ce verset, en fait. C'est que moi, ma façon de faire, c'est je sais que je veux faire un truc pas très bien. Je ne parle pas d'aller tuer le voisin, mais voilà, dans mes pensées, etc. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je ferme les fenêtres, hein, je dis « Dieu, tu n'existes pas », je fais mon truc, et puis je me sens coupable, et puis je reste dans ma culpabilité un certain temps, et puis j'ai l'impression que le temps dilue la culpabilité, et au bout de, selon la taille du mal que j'ai fait, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça dépend, semaine c'est long déjà, mais bon, hop, je reviens vers Dieu, des fois même sans vraiment dire « Non, j'ai mal agi, je te demande pardon. Hein. » J'essaie de... Hop, 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 bon, Dieu m'accepte. Et puis, mais c'est pas net, c'est pas bon. Quoi. Mais en fait, je dois réaliser que de toute façon, que je ferme les yeux ou pas, Dieu est là. Il me voit. Il est présent. Lui, il ne s'éloigne pas de moi. Hein. Mais si moi, je reste dans la lumière, c'est-à-dire je décide de vivre dans la conscience de sa présence, y compris quand j'agis mal... Ça veut dire qu'en fait, ben presque en même temps que j'agis mal, je peux... En fait, ouais, c'est complètement nul ce que je fais, parce que je sais que dans 3 jours, je vais être mal, et je vais me sentir coupable, et je vais me sentir nul, et peut-être je n'irai pas à la réunion de prière parce que je n'arriverai pas à prier, et puis je vais attendre une semaine, et au bout d'une semaine, je vais finir par dire, David, ça a pris 2 ans, hein, mais et dans certains, pour certaines personnes, ça peut durer des années, hein, ou, je ne sais pas, ou je serai de même, mais... Et finalement, on va revenir à Dieu en disant, ben, ouais, j'ai péché, j'ai eu tort, je te demande pardon. Et Dieu dit, ben, t'es pardonné. C'est quand même bête que t'aies perdu toutes ces heures, ces semaines ou ces années, parce que tu aurais pu le faire de suite. Parce que Dieu sait bien qu'on va pas devenir parfait dans le sens de plus jamais pécher. Alors, on doit éliminer tout ce qu'on peut, faire tout ce qu'on peut au mieux pour pas, mais on va continuer de pécher. Et c'est pas le fait qu'on s'accorde un droit de continuer à pécher, hein. Mais c'est que malgré tout, ça va arriver. Mais si j'apprends à vivre dans la lumière, je ne vais pas ajouter au péché le fait de perdre des bouts de ma vie inutilement pour rien, parce que dans 10 jours, je me sentirai le courage d'aller demander pardon. Christ est déjà mort, Dieu est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. Et puis, mis bout à bout, imaginez, hein, c'est comme au montage quand les gens font des reportages, puis après ils sont dans le studio, puis tout ce qui n'est pas bien, ils coupent. Hein. Mais quand on va arriver à la fin de nos vies et que Dieu va couper, parce qu'il ne va pas nous faire de reproches, il va couper tous ces moments où on ne marchait pas dans la lumière. Ça serait bête que ma vie soit courte, au point qu'il y a le générique, hein, avec le titre, et il devint un enfant de la lumière. The end. Ok, ben oui, il est au ciel. Hein. C'est ce que la Bible appelle être sauvé comme au travers du feu. Il n'y a pas de souci, si quelqu'un est devenu enfant de Dieu, il est enfant de Dieu, c'est irréversible. Quoi. Sauf que les bagages d'âme qu'il prend pour l'éternité, donc c'est-à-dire pour la vraie vie, ici on est à l'école, c'est « et il devint enfant de Dieu ». Fin. Cool. C'est mieux que de ne pas être enfant de Dieu. Mais dans mon intérêt, c'est stupide de vivre comme ça. Et c'est pour ça que j'ai intérêt à apprendre à vivre dans la lumière. Et quand on a un certain âge, et puis en tout cas je parle pour moi, et je regarde derrière, et puis je me dis, ouais, d'abord ça passe vite, et puis il y a quand même pas mal de coupures, quoi. C'est bête. Ce temps-là, il a été gaspillé, il ne sert à rien. C'est pas que Dieu va m'en faire le reproche, hein. C'est juste que c'est perdu, c'est coupé au montage. Et je me dis, mais racheter le temps, c'est ça ? C'est vivre dans la lumière, mais effectivement, c'est exigeant. Et en même temps, c'est incroyable parce que justement, c'est en vivant dans la lumière que je vais moins pécher. Parce que, comme c'est dit dans plusieurs passages, et je ne vais pas tous les rechercher, il y a des choses qu'on fait la nuit, on ne fait pas le jour. Et on est tous comme ça, c'est les humains sont comme ça. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer à midi sur la place du village, quand il fait soleil, qu'il y a tout le monde autour, mais qui se pose sans aucun problème la nuit dans certains lieux, dans la pénombre. Et on est tous comme ça. Mais du coup, si moi je choisis de vivre dans la lumière, il y a des tentations que je vais même pas avoir à lutter avec. Hein. Parce que imaginez des choses qu'on fait mentalement, je parle essentiellement, et qui sont pas bonnes. Mais si Jésus physiquement était là, à côté de moi, en train de me regarder, je penserais à ça 3 secondes, et puis, oups, oh là, si des fois il y est pensé, j'arrêterais, quoi. Hein. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il est là. Mais pas pour me condamner, pour me dire, mais perds pas de temps, parce que moi, je veux bien te pardonner, mais il faut que tu veuilles. Hein. Parce qu'on est toujours dans le même principe que le départ, la lumière est venue, et ils ne l'ont pas accueilli. Il faut arrêter de penser à ces textes-là juste pour ceux qui ne sont pas croyants. C'est pour nous. La lumière vient dans ma vie, chaque matin, elle est là, elle attend que je me réveille, hein, parce qu'elle ne se couche jamais, elle ne s'éteint pas. Et puis, est-ce que je l'accueille? Ou est-ce que je pars dans un programme pour produire une bonne éthique morale chrétienne, qui, c'est mieux que rien du tout, hein, mais je me prive de ça. Et le test final, et je termine réellement avec ce verset, celui qui dit, 1 Jean 2,9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est, du verbe haïr, son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Jean qui était, enfin, le Saint-Esprit par Jean, mais qui sait qu'on a besoin de choses concrètes, il dit, vous voulez savoir où vous en êtes là? Quelles sont vos relations les uns avec les autres? Parce que si je pense marcher dans la lumière, mais elle, ouais, là, je la critique, lui, je l'aime pas, lui, je veux pas le voir, lui, je préfère pas le voir, les autres, j'ai pas envie de les voir. Finalement, je vis tout seul, parce que comme ça, au moins, ils me font tous... Il y a un souci quelque part. Et ça veut pas dire qu'on doit être amis avec tout le monde, passer notre temps avec tout le monde. Si vous lisez la pensée du moins, j'ai écrit sur choisir des moments de solitude. Donc, voilà. Mais il y a un test qui est là, c'est que... Si je vis dans la lumière, j'ai de l'amour pour les enfants de lumière. Pas que je sois d'accord avec tout ce qu'ils font, c'est pas... mais il y a quelque chose qui est là. Il y a de la joie quand je les retrouve, il y a une envie de les retrouver, etc. Et encore une fois, c'est pas de se culpabiliser si on vit pas ça qui nous aide, c'est de se dire, j'ai besoin de Christ, j'ai besoin d'être en communion avec lui, parce que quand je suis dans la lumière, il y a les fruits de la lumière, et le fruit ultime, c'est l'amour des autres. Ce qui a fait que sans télé-évangéliste, sans radio, sans tract, sans hélicoptère, sans campagne, etc., l'évangile s'est répandu dans toute une génération. Sur quelle base? Ces gens-là, ils ont un truc différent. Ils s'aiment les uns les autres. Ce n'est pas leur prêche, ce n'est pas leur discours, c'est pas leur... ils s'aiment. Et ça, ça nous fait envie. Hein, et c'est comme ça que ça s'est répandu. Mais là aussi, si on dit « il faut s'aimer », il faut s'aimer, ouais, on ne peut pas s'aimer. Mais si je vis dans la lumière, l'amour va venir en moi pour les autres. Donc toujours replacer les choses dans le bon ordre pour qu'il y ait du fruit et pas du travail pour. Mais c'est un travail de marcher dans la lumière, parce que c'est exigeant. Seigneur, merci parce que tu es la lumière et puis tu veux nous apprendre à marcher dans la lumière. Ce n'est pas naturel pour nous, ce n'est pas inné, mais on veut l'apprendre, on veut le pratiquer. Et merci pour tous les moments où on le vit, parce que c'est magnifique, c'est les plus beaux moments de nos vies. Et qu'on puisse aussi apprendre à le vivre ensemble et s'encourager à le vivre et apprécier cette lumière, parce que cette lumière, c'est la vie, et on aime la vie avec toi.